Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de deux lois qui portent votre nom, la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin 1, et la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a créé l'AFA notamment, dite Sapin 2. Pourquoi en 23 ans d'intervalle une nouvelle loi sur la lutte contre la corruption ?
23 ans, c'est 23 ans entre les deux dates, c'est beaucoup. Et on pourrait se poser la question de savoir, au fond, est-ce que ce n'est pas la reconnaissance d'un échec ? Il y avait une première loi, il en a fallu une seconde. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que le contexte est très différent. Dans les années 90, fin des années 90, la question, c'était de lutter contre la corruption sur le territoire national. Et tout particulièrement, car les collectivités territoriales étaient vraiment dans la tourmente, contre des mécanismes de financement illégaux, mais extrêmement répandus, de la vie politique et des partis politiques. C'était toutes les affaires dont les uns et les autres ont entendu parler, Urbain, Gracco, Ville de Paris, tous les partis, absolument tous les partis, ont été concernés. Donc il fallait faire le ménage, mettre en place des règles qui soient solides, mettre de la transparence dans les procédures que les collectivités territoriales ont l'habitude de mettre en œuvre, les marchés publics, les délégations de services publics, etc. La deuxième loi, son rôle principal a été de détendre cette vision de lutte contre la corruption à l'étranger, à l'extérieur. Ça concerne principalement les entreprises. Mais aussi, j'ai voulu, à cette occasion, renforcer l'arsenal, les moyens dont la puissance publique peut disposer pour accompagner les acteurs publics, dont les collectivités territoriales, dans cette lutte contre la corruption. J'avais créé un service qui était chargé de la prévention de la corruption dans la première loi. Mais ce service manquait de moyens, manquait de pouvoir, manquait de reconnaissance, et donc au bout du compte, ne servait plus à grand-chose. Et l'AFA, la création de l'AFA, dont un des rôles, au-delà de s'occuper, de faire en sorte que les entreprises respectent bien la loi Sapin 2, un des rôles est de continuer aux côtés des collectivités territoriales à sensibiliser, à orienter, et si jamais l'AFA voit quelque chose d'anormal dans une collectivité territoriale, à le signaler de manière à ce qu'il y soit mis fin. Donc voilà, d'abord, étendre notre regard au-delà de nos propres frontières, mais, pour ce qui est du territoire national, renforcer les moyens juridiques, institutionnels, dont les pouvoirs publics peuvent aujourd'hui disposer.
Vous avez présenté le projet de loi en 2016, donc la loi Sapin 2. Vous avez indiqué qu'il allait permettre à la France de rejoindre les meilleurs standards internationaux anticorruption. Pourquoi cet objectif est-il déterminant pour la France et la gestion publique ? Pensez-vous que cet objectif a été atteint depuis ? Et si je peux me permettre une troisième question, quelles sont les marges de progrès ?
Ce que tout le monde n'a pas forcément en tête, mais c'est qu'en 2012-2013-2014, la France était extraordinairement mal vue du point de vue de sa capacité à lutter contre la corruption, et en particulier la corruption au niveau international, dans les autres pays. La corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. Et cette vision négative de la France avait de graves conséquences. D'abord, c'est assez insupportable pour tout citoyen français, tout responsable politique, de voir son pays, en quelque sorte, cloué au pilori comme étant moins performant dans la lutte contre la corruption. Alors que la France n'est pas plus corrompue qu'un autre pays, mais les outils étaient peu performants. Aucune entreprise française n'avait été encore condamnée pour corruption d'agents étrangers à l'étranger. Alors que, et c'est l'autre préoccupation, 17 entreprises françaises avaient fait l'objet de poursuites aux États-Unis, avec souvent des sanctions extrêmement élevées. On ne jugeait pas chez nous, on nous jugeait à l'extérieur. Il y avait là quelque chose de parfaitement inadmissible. Et donc, les standards internationaux, c'est se doter des moyens qui permettent de lutter efficacement contre la corruption sur le territoire français. Et tout particulièrement, d'un certain nombre de moyens très précis qui sont cité dans la loi Sapin 2, dans un fameux article 17, qui s'applique aux entreprises, mais dont les collectivités territoriales doivent s'inspirer pour que cette obligation, en termes de formation, par exemple, mais aussi en termes d'engagement des instances dirigeantes, dit-on, dans les entreprises, mais on peut dire aussi des instances élues, des instances exécutives dans les collectivités territoriales, l'analyse des risques, enfin, etc. Tout cela, ce sont des standards internationaux. C'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est ce qui se passe en Angleterre, c'est ce qui se passe en Allemagne, ça n'est pas ce qui se passait en France. Il fallait mettre en place ces standards et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un très bon niveau et surtout à une reconnaissance par nos partenaires de ces progrès dans la mise en œuvre de dispositifs qui sont des dispositifs efficaces. Alors, existe-t-il encore des marges de progrès ? Oui, il peut y avoir techniquement un certain nombre de marges de progrès, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a deux grandes préoccupations. La première préoccupation, c'est que dans le domaine de la corruption, c'est comme un vélo. Si vous arrêtez de pédaler, si vous ralentissez trop, si vous vous arrêtez, vous tombez. Et donc, la lutte contre la corruption, c'est pas un moment, le moment où on vote la loi Sapin. C'est pas un moment, le moment où on adopte dans la collectivité territoriale ou dans l'entreprise le plan de prévention de la corruption. C'est continu. C'est une préoccupation continue. Il faut donc qu'il y ait toujours une pression. Il faut toujours qu'il y ait une volonté, une expression des responsables, que ce soit au plus haut niveau de l'État ou que ce soit dans les collectivités territoriales, pour ramener chacun à cette préoccupation de la lutte contre la corruption. C'est ça qui manque le plus, et en particulier, objectivement, dans les collectivités territoriales françaises, qui à un moment donné se sont beaucoup préoccupées de ce sujet-là, qui de temps en temps, parce qu'il y a une affaire, se voient rappeler la nécessité de, mais il faut le faire de manière absolument continue. Puis la deuxième grande préoccupation, c'est que nous avons des règles françaises, elles sont à un bon niveau, mais en Europe, tout le monde n'a pas les mêmes règles. Or, là, il y a quelque chose qui est choquant, qui complique la vie des uns et des autres. Il est nécessaire de passer à un niveau européen dans la mise en œuvre de ces règles anticorruption. Dans bien d'autres domaines, nous avons des règles européennes, même par exemple dans le domaine fiscal, mais dans le domaine de la lutte contre la corruption, c'est un peu chacun pour soi. Et nous, chacun pour soi dans la lutte contre la corruption, avec des systèmes de blanchiment d'argent qui sont totalement internationalisés, le chacun pour soi, c'est l'inefficacité. Donc, il faut maintenant monter au niveau européen.
D'accord, votre message est relativement clair. Quel regard portez-vous sur la question de la prévention de la corruption dans l'administration et plus précisément dans les collectivités territoriales, thème qui ne fut pas central dans les débats parlementaires en 2016 et aujourd'hui, aborderiez-vous cette question différemment ?
Alors, en 2016, je le redis ici, notre préoccupation principale, c'était d'être enfin efficace dans la lutte contre la corruption à l'étranger, par des entreprises françaises ou des acteurs français. Mais on n'a pas pour autant oublié le territoire français et tout particulièrement les collectivités territoriales. Mais on a rajouté peu de choses. Si, une AFA qui a plus de pouvoir, plus de capacité, y compris dans le dialogue avec les collectivités territoriales. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui agir différemment ? C'est assez compliqué parce que les collectivités territoriales, contrairement aux entreprises, elles sont déjà, par principe, soumises à un grand nombre de contrôles. Elles ont d'abord le contrôle de légalité, avec la capacité pour les services de la préfecture de vérifier que telle ou telle délibération, tel ou tel marché a été passé dans des conditions conformes à la loi et sans qu'interviennent d'autres éléments parfaitement illégaux dans la passation de ce marché. Les chambres régionales des comptes ont aussi une capacité, y compris d'aller très loin, vous le savez les uns et les autres, dans la vérification de ces marchés, les conditions de passation, elles ont la capacité de faire des remarques, elles peuvent même, si elles ont le sentiment que quelque chose a été fait contrairement à la loi, saisir le parquet selon ce qu'on appelle l'article 40. Et donc, c'était difficile de donner à l'AFA de nouveau encore des moyens de contrôle et de sanctions alors qu'il existe déjà par ailleurs ces moyens-là. Alors, ça peut se discuter, mais certains, d'ailleurs, voyant ce cumul de capacités de sanctions et de capacités de contrôle, disent il faut donc unifier tout cela et supprimer à l'AFA cette capacité de contrôle. Je crois que ce serait une erreur. Parce que c'est aussi en connaissant bien les mécanismes de fonctionnement des entreprises qu'on comprend aussi où sont les risques du côté des collectivités territoriales. Et le contrôle de l'AFA, de ce point de vue-là, est très important pour les collectivités territoriales. Donc, est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus aujourd'hui ? Non, je craindrais qu'on veuille faire un peu moins, non pas plus, mais parfois mieux. Mieux dans l'accompagnement, mieux dans la pédagogie, mieux aussi du côté des collectivités territoriales dans la volonté et dans l'expression de cette volonté de ne tolérer aucun risque, risque zéro partout. C'est la seule bonne manière de faire quand on veut lutter contre la corruption.
La loi Sapin 2 a renouvelé le dispositif institutionnel de prévention de la corruption et a introduit des dispositions de politique pénale innovante. Quel bilan pouvez-vous dresser de son application ?
Alors ces politiques pénales innovantes que nous avons introduites, parfois contrairement à l'esprit français, si je puis dire, dans ce domaine-là, et tout particulièrement, on a introduit des procédures de transaction entre les entreprises et la justice sur un certain nombre de sujets, elles ont été introduites pour qu'on soit enfin efficace. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de prouver le pacte de corruption. Prouver que deux personnes se sont entendues pour échanger des services contre de l'argent. Si les deux disent « mais non, pas du tout », c'est extrêmement difficile de prouver la corruption dans le système français. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises n'étaient pas condamnées chez nous, alors que d'autres procédures existantes aux États-Unis en particulier, elles étaient poursuivies et frappées ailleurs que chez nous. Donc on a introduit un dispositif principalement de justice transactionnelle qui fonctionne extrêmement bien. On appelle la Convention judiciaire d'intérêt public. La CJIP a été mise en œuvre à de nombreuses reprises. Il y a actuellement encore énormément de procédures de cette nature-là. Et ça a permis enfin de faire en sorte que les entreprises fassent le ménage chez elles et mettent en place des mécanismes de prévention. Donc nous sommes maintenant efficaces. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption. Il n'y a plus de corruption. Mais on est beaucoup plus efficace dans la prévention, beaucoup plus efficace dans la poursuite des faits pénaux. Donc je suis satisfait et au fond, vous me direz que vous soyez satisfait de ce que vous avez fait, pourquoi pas, mais il y a, dans ce point de vue-là, il y a un juge de paix. Le juge de paix, c'est l'OCDE. Tout ce que nous faisons en France, comme dans les autres pays, c'est parce que nous avons signé une convention, il y a déjà quelque temps, en 1997, qui nous oblige à lutter efficacement contre la corruption. Et c'est donc en application de cette convention que nous agissons. Et puis, cette convention prévoit que l'OCDE a la capacité de contrôler, vérifier que tout ça est bien fait dans chacun des pays concernés. En 2011, l'OCDE est intervenu avec un rapport extrêmement critique sur la situation française. 10 ans après, donc après l'approbation de la loi Sapin, après la mise en œuvre des dispositifs de loi Sapin, 10 ans après, en 2021, début 2022, l'OCDE a fait un nouveau rapport pour dire que tout avait changé. Au fond, que la France était passée dans un autre monde, dans une autre capacité à lutter contre la corruption. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de point d'interrogation, qui porte principalement sur les moyens de l'AFA, moyens du parquet national financier. Mais on est passé vraiment à une autre vitesse. Maintenant, il faut maintenir ce niveau-là. Et maintenir ce niveau-là, c'est l'efficacité de tous les jours, c'est la volonté de tous les jours de bien lutter contre la corruption à quelque niveau que ce soit, sur le territoire national comme à l'international.
Avec ce recul de 6 ans d'application de la loi Sapin 2, quelles actions correctives ou points de vigilance proposeriez-vous aujourd'hui?
J'ai un peu répondu déjà à cette question, mais il y a quelques éléments techniques qui peuvent être modifiés. Aujourd'hui, certaines entreprises, parce qu'elles sont des filiales étrangères, ne sont pas soumises aux mêmes obligations en France que des entreprises comparables qui ont leur tête de groupe installée en France. Je pense cet exemple-là, mais c'est très technique. Donc, il y a quelques éléments de cette nature. Mais les deux sauts décisifs, c'est le saut européen. Il faut passer au niveau européen pour que les entreprises puissent avoir les mêmes obligations sur l'ensemble du territoire européen et puissent donc avoir plus d'efficacité et que, globalement, l'Europe soit plus efficace dans la lutte, chaque pays d'Europe soit plus efficace dans la lutte contre la corruption. Et puis, il faut aussi penser au niveau international. Il y a un endroit où discutent les grandes nations du monde, même le G20. Au G20, tout le monde dit il faut lutter contre la corruption. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire la corruption, c'est bien. Tout le monde, il faut lutter contre la corruption. Les mots les plus durs, les engagements les plus forts. Et parmi ces membres du G20, il y a quelques pays que chacun peut avoir en tête. Ils ne prennent pas les moyens de faire respecter par leurs entreprises, par exemple, à l'extérieur, les engagements qui sont les leurs. C'est fait que nous le faisons. Les Américains le font. L'Europe, d'une manière générale, le fait. Mais il y a quelques grands pays qui ne le font pas. Il faut donc aussi passer au niveau international, c'est le plus difficile. On a mis en place des grandes réglementations internationales dans la lutte contre le financement du terrorisme, efficaces. On a mis en place des mécanismes de sécurisation des systèmes financiers et bancaires avec des engagements au niveau international qui sont la plupart du temps respectés et qui évitent jusqu'à présent qu'on ait des tremblements de terre financiers comme ceux qu'on a pu connaître en 2008-2009. Donc on est capable de le faire. Et dans le domaine de la corruption, on n'a pas su encore au niveau international, au niveau de la coopération internationale, à monter au bon niveau. Donc, les principaux efforts, c'est chacun, là où il est, qu'il soit continu à être persuadé que le risque est toujours là, de la corruption. On ne doit jamais s'habituer à la lutte contre la corruption. On doit être tout le temps acteur de la lutte contre la corruption. Ça, c'est chez nous, chacune des entités concernées, dans chaque collectivité territoriale. Et puis, c'est monter au niveau européen, monter au niveau international. Globalement, le monde soit plus efficace dans la lutte contre la corruption, qui est quelque chose de terrible, puisque c'est la confiance des citoyens en leur démocratie. C'est aussi une manière de tordre la concurrence, la bonne concurrence, puisque les entreprises qui obtiennent le marché sont pas celles qui ont le meilleur prix avec le meilleur produit. Donc il y a quelque chose, tout le monde y perd, et en particulier l'ensemble des citoyens y perdent. Donc cet impératif, il est au cœur du pacte républicain, et c'est la raison pour laquelle on ne doit jamais baisser les bras devant la corruption.
Monsieur le ministre, il me reste à vous remercier.
Merci.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.